tirer des nouvelles, Chantal Leroux,
Jérémy Besset,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bienvenue dans Vous m'en direz des nouvelles. Comment le chapeau qui ne le quitte jamais peut-il dissimuler autant de casquettes ? On le connaissait, chanteur, auteur, musicien, poète, illustrateur. On l'a découvert acteur de théâtre il y a 2 ans dans une pièce musicale de Wajdi Mouawad, mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge. Une expérience trop vite interrompue par la crise sanitaire et des chansons qui seraient tombées dans l'oubli. Alors aujourd'hui, il enfile à nouveau le costume Laméor d'Alice, rockstar sur le retour, et sort un mini-album concept inspiré du spectacle et aux sonorités électro. 8 chansons pour une invitation au voyage à la fois poétique, fantasque, onirique et sensuelle. Bonjour Arthur H.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir pour parler de ce nouvel album qui porte le même titre que la pièce, oui. Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge. Comment vous est venue l'envie de prolonger le spectacle avec un album ? Vous regrettiez que vos chansons aient une vie trop éphémère ?
Ouais, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que évidemment, il y a eu la pandémie, donc tout s'est engouffré dans le néant sans laisser de traces. Et oui, les chansons, bah moi j'aime les chansons, je trouve que les chansons elles sont faites pour voyager, pour éventuellement toucher le cœur des gens, si pour le mieux. Mais pour ça encore faut-il qu'elles existent et que les gens puissent les écouter.
Et les réécouter. Alors cet album est bien plus que la bande-son du spectacle. Certaines chansons ont été jouées sur scène, d'autres sont inédites, mais auraient pu sortir de l'imagination d'Alice avant qu'il ne sombre.
Ouais, c'est ça. Dans la pièce, en fait, il y avait plusieurs sources. Il y avait déjà la musique de théâtre qui était faite. Merde, j'ai un trou de mémoire, c'est horrible. Un mec super qui a fait la musique de illustrative un peu de la pièce, il y avait pas beaucoup, mais il y avait de la musique, il était sur scène avec nous aussi, son nom va me revenir.
Pascal
Humbert.
Voilà.
Bravo, merci.
Moi j'avais le prénom.
Pascal Humbert, qui a fait lui la musique, disons, descriptive, comme la musique d'un film et tout ça, mais ça participait beaucoup à l'ambiance de... Ensuite, il y avait les chansons que Alice était censée avoir composées du temps de sa splendeur, ses tubes, donc notamment Nancy dans le disque, une chanson qui s'appelle Nancy. Et ensuite, pour finir, le manager de Alice lui dit « Mais compose-moi ton album posthume alors que t'es vivant et je te donne 2 jours, enferme-toi et compose le disque. » Et ça, c'est ces chansons qu'il était censé avoir composées très vite comme ça, dans l'urgence, pour son disque posthume. Donc il y a le hologramme, murmure, voilà, il y a toutes ces sources-là.
Donc, 2 chansons qu'on va entendre tout à l'heure. Pour l'instant, je vous propose d'écouter L'Avalanche. C'est la chanson qui ouvre l'album.
Clabousse en piste. Tu ne sais pas qu'elle arrive, l'avalanche. Même si le soleil te brûle et que l'air froid te glace, défie l'espace, insolente insouciance. Hors piste. Et soudain, tu pressens l'avalanche. Voilà qu'elle se rapproche. L'avalanche accélère, rapide et légère. Hors maman. Je te révèle, reine des neiges. Hors piste. Tu as goûté à la puissance de la balance.
Avalanche, chanson inédite, extraite du nouvel album d'Arthur Ashe, mort prématuré d'un chanteur populaire dans la force de l'âge. Le clip avec le dessin de Christophe Blain est magnifique. Qui est cette femme nue qu'on voit courir en cuissarde aussi écarlate que sa chevelure?
Je ne sais pas, c'est parce que ça c'est le fantasme de Christophe. C'est vrai que... On pourrait considérer que la chanson est une forme de métaphore sensuelle, sinon sexuelle. Moi, j'avais pas imaginé ça. J'imaginais juste quelque chose qui nous dépasse, qui nous emporte, quelque chose de plus grand que nous. C'est une idée qui m'est très chère. Et puis lui, il l'a matérialisé comme ça. Mais le clip est son imaginaire. Moi, j'ai bien aimé le clip. Après, j'ai bien aimé aussi me voir une représentation de moi tomber sur cette planète inconnue, atterrir sur le corps d'une géante rousse. C'était pas mal.
Dans la pièce écrite par Wajdi Mouawad, vous incarniez donc Alice, ex-chanteur populaire, qui va se laisser convaincre de simuler sa propre mort pour mieux vendre un album posthume. Un personnage qui semble a priori très loin de vous. Est-ce que, comme Gainsbourg cachait Gainsbourg, il y a en vous quelque chose d'Alice?
Bah oui, bien sûr, parce que, évidemment, pas trop, j'espère, mais quand même. Oui, c'est sûr que j'ai connu quand même des échecs dans ma vie. J'ai été sur la pente savonneuse de l'amertume, parfois, ou même du désespoir, mais j'ai, disons, toujours su, à un moment, remonter rapidement avant que la glissade m'emmène trop loin, quoi. Donc, Alice, il est vraiment englué dans son amertume, ce qui m'est jamais arrivé, en tout cas.
Il a l'impression de ne pas être reconnu, et ça, c'est un sentiment qui vous a traversé.
Qui m'a traversé pas mal de fois, ouais.
Au cours de votre pourtant très longue carrière, ouais, déjà ouais. Plus de 30 ans.
Bah, disons que là, qu'on a un rêve comme ça, après, la reconnaissance, évidemment, met, disons, de l'essence dans le moteur. Mais après, ce rêve, ça reste un rêve intérieur. Ça reste une pulsion. Moi, j'ai une pulsion de vie vers la musique, vers la poésie. Et ça, rien ne peut me l'enlever. Du coup, que ça marche ou que ça marche pas, c'est pareil. Après, c'est sûr que ça peut aider d'avoir une reconnaissance à un moment donné. Après, je me sens quand même soutenu par plein de gens et puis aussi, surtout par le public.
Alors en 2009, ouais. Vous avez reçu la victoire de la musique pour L'Homme du Monde dans la catégorie album pop-rock de l'année. On écoute un extrait de votre discours de remerciement.
Ouais. Des fois, j'ai eu longtemps l'impression d'être un vilain petit canard dans la chanson française, ce que je suis d'ailleurs sûrement. Mais là, d'avoir ça me fait plaisir parce que le vilain petit canard réintègre la mare avec les autres canards et les cygnes et tout ça.
Alors, est-ce que vous vous sentez encore comme le vilain petit canard ou est-ce que tout ça est derrière vous?
Tout à fait.
Non, toujours.
Bah, je dirais vilain petit canard forever, hein. À tout jamais, non, mais je pense que c'est important aussi de... Je pense que c'est important d'être marginal, en fait. Aujourd'hui, on a l'impression de vivre dans une société où tout va être de plus en plus normé, où finalement toute parole extérieure va être carrément inaudible. Je pense qu'on a besoin d'artistes un peu foutraques, et puis aussi d'autres gens. Puis on a vraiment besoin de marginaux pour mettre un peu d'air dans tout ça. Donc moi, j'assume le fait d'être marginal, de penser autrement que la norme, parce que j'ai toujours été comme ça. Puis voilà, vilain petit canard, c'est pour moi, maintenant, c'est plus une insulte, c'est plutôt un compliment.
Et la poésie, c'est l'antidote idéal à ce monde corseté, régulé, encadré, surveillé?
Bah, peut-être, en tout cas, c'est un des antidotes, quoi. C'est pas, parce que disons que la poésie, ça serait une parole qui est pas enfermée, qui est libre, qui résonne, qui laisse plein de potentiel, qui est une parole ouverte. Et du coup, on peut mettre un sens très intime dedans. Du coup, c'est un langage libre, contrairement justement qui est l'antithèse du langage complètement fabriqué, en fait faux, le langage qui est fait pour manipuler, le langage politique pour ne pas le nommer. C'est une parole qui parfois, je dirais pas tout le temps, je sais pas, mais qui peut sembler complètement creuse, en fait artificielle, une parole artificielle. Or, la parole, c'est quelque chose, c'est notre essence, en fait. On se construit, notre identité, ce qu'on est, se construit avec la parole. Donc c'est très important, c'est vraiment, c'est la création pure, la parole, les mots. Donc à partir du moment où on est habitué à que ces mots-là soient vidés de sens tout le temps, et que finalement les mots ne veulent plus rien dire parce qu'on, non seulement on trahit sa parole, mais surtout on a une langue de bois, en fait. On a une langue comme ça qui est mécanique, en fait. La langue mécanique tue le langage. Et puis si on tue le langage n'a plus de sens. Et du coup, notre vie n'a plus de sens. Du coup, je pense que, ouais, il y a des enjeux en dessous, souterrains, dont on ne parle pas aujourd'hui, mais qui sont, pour moi, très, très, très importants, quoi, vraiment.
Vous évoquiez la langue de bois. Pour Alice, l'État est la nounou personnelle des gens.
C'est une blague. Non, mais enfin bon, c'est une blague.
Est-ce que vous partagez quand même un petit peu cet avis? Est-ce que, par exemple, au début de la pandémie de Covid, on nous a pris pour de grands enfants?
Ah, je trouve que le discours était très très souvent horriblement paternaliste, quoi. Horriblement. C'est-à-dire qu'on ne nous parlait pas du tout comme à des adultes, des êtres conscients, responsables. On nous culpabilisait. La culpabilité est une arme massive de manipulation, en fait. On culpabilise les gens pour qu'ils soient dépendants. Et puis le ton paternaliste, ça, c'est vraiment... Moi, personnellement, j'aime pas du tout me faire manipuler. Et j'ai vraiment ça en horreur, quoi.
J'ai pris le mur dans la gueule. J'ai pris le mur dans la gueule. J'ai pris le mur dans la gueule. C'est ça, je fais le mur dans la mort. Je fais le mur dans la mort. C'est ça, j'écoute le mur. Da-da-da-da. J'écoute le mur. Da-da-da-da. Ouais, j'ai pris le murmure dans la gueule. J'ai pris le murmure dans la gueule. C'est ça. Ouais. Je fais le murmure dans la mort. J'écoute le murmure de l'au-delà, de l'au-delà. J'écoute le murmure. J'entends les murmures de l'au-delà. De l'au-delà, j'entends les murmures. De l'au-delà, c'est ça.
Dans l'au-delà, c'est ça. Arthur Ashe, quels sont ces murmures de l'au-delà que vous entendez ?
Bah, c'était le trouble d'Alice pendant la pièce où donc il y a sa fausse mort, mais en même temps ses intimes vont croire qu'il est vraiment mort. Donc il a des doutes comme ça, et ces murmures de l'au-delà, bah, je pense qu'ils sont finalement un peu chez nous tout le temps. La mort fait partie de la vie. Je pense qu'il y a des cultures qui sont beaucoup plus sensibles à ça, à la présence des morts avec les vivants, qui d'ailleurs peut être une présence aussi très bénéfique. D'ailleurs, quand quelqu'un meurt, souvent on sent que à la fois il y a une grande perte et une grande douleur par rapport à la perte de cette personne qu'on a aimée. Et en même temps, on constate un enrichissement, comme si l'esprit de cette personne était avec nous et je sais pas s'il nous guidait, mais était là aussi pour nous aider, nous enrichir en tout cas. Donc le rapport entre mort-vie, il est pas aussi clair que ça, aussi tranché. Je pense qu'il y a vraiment un vrai entre-deux qui peut être à la fois horrible, c'est-à-dire trip zombie mort-vivant, mais qui peut à la fois aussi être très beau, dans le sens où on est entouré d'esprits bénéfiques qui nous enrichissent.
Dans Hologramme, un autre titre de votre nouvel album, ouais, vous chantez « Ne m'oublie pas quand je ne serai plus là ». Vous avez peur que votre image s'efface après votre disparition, comme un hologramme qui se désintègre, pour reprendre les paroles de votre chanson ?
Non, c'est pas une peur qui m'habite. Je pense que quand même, je fais une musique quand même qui est pas complètement dans son époque, et du coup, j'aimerais que cette musique touche des gens dans le futur, hein, mais après je serai pas là pour le constater, mais ça me ferait plaisir de dire tiens, ce mec-là, il était peut-être en dehors de son époque un peu parfois, mais il nous parle à nous, ça me ferait plaisir, mais bon, c'est un vœu un vœu vain, parce que je serai pas là pour le constater.
Alors on entend votre voix grave, ouais, rocailleuse, et là dans Hologramme, elle est méconnaissable, elle monte dans les aigus. Pourquoi ce choix ?
Ben moi j'aime chanter parce qu'en fait au départ j'étais vraiment un très mauvais chanteur et j'ai eu beaucoup de plaisir, et j'en ai toujours beaucoup actuellement d'ailleurs, à sortir ma voix, à la découvrir, je peux chanter très aigu, je peux chanter grave, je peux chanter fort, enfin j'essaye tout quoi, je m'estime être un espèce d'éternel débutant et que j'ai toujours beaucoup de choses à...
Vous aimez expérimenter.
Ouais, beaucoup de choses à apprendre, à découvrir. Il y a vraiment un champ d'exploration qui est, faut le dire, quasiment infini, qui n'a pas de fin, quoi.
Cette pièce qui a inspiré l'album est à l'origine une idée commune à vous ouais, et au dramaturge et metteur en scène Wajdi Mouawad. Même si vous lui avez laissé le soin d'écrire la pièce, vous aimez tous les deux raconter des histoires, embarquer votre public. Est-ce que c'est ce point commun qui vous a poussé à travailler ensemble, ou est-ce que vous avez plein d'autres affinités
Ouais, en tout cas, c'était un point commun fort. Et au départ, on était plutôt sur l'idée de faire un concert un peu magique qui mettrait en scène. Après, je sais pas trop comment on est arrivé à l'histoire d'enterrement, que je sois dans un cercueil et puis, mais une espèce d'enterrement joyeux, quoi, bordélique, où la personne sort du cercueil et puis raconte l'histoire de sa vie. Puis finalement, c'est en discutant, c'est arrivé à une vraie histoire. Et puis moi, j'étais absolument ravi de tomber dans l'univers de Wajdi et de participer.
Qu'est-ce que vous aimez dans son univers, justement ?
J'aime sa créativité. Alors, Wajdi est quelqu'un qui a des très très longues histoires. Il peut, des fois, il a des pièces aussi qui avec des histoires qui courent sur plusieurs générations, comme Forêt, tout ça, où t'as carrément la fille, la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, et tout ça est presque simultané, tout ça. Non, les histoires, c'est très important. On est aussi des humains parce qu'on se raconte des histoires.
Et vous, il vous vient d'où ce goût pour les histoires ?
Il me vient depuis toujours, je pense, de mes parents, de mon père. Quand j'ai pas beaucoup vécu avec lui, mais il m'a quand même raconté, improvisé. Et c'est quelqu'un qui avait un grand grand don d'improvisation. Donc je sais qu'il m'a fait rêver, il m'a vraiment genre décapsulé le cerveau quand j'étais petit avec des histoires, chose que moi j'ai reproduit avec mes filles. Et ma mère m'a lu beaucoup de livres aussi, chose que j'ai fait aussi après avec mes enfants. Et j'aime l'émerveillement en fait de l'enfance face à l'histoire, parce que on y croit à l'histoire, elle est réelle et elle nous fait vraiment voyager, c'est-à-dire l'âme voyage pour de vrai dans les histoires. Et puis les histoires ont été de tout temps initiatiques, en fait. C'est des histoires initiatiques qu'on raconte depuis le début des temps. L'Iliade, l'Odyssée, le Mahabharata, les histoires africaines et tout ça sont très anciennes. Et puis c'est encore une fois, ça nous est nécessaire comme l'air qu'on respire.
Arthur, on va écouter Wajdi Mouawad parler de sa définition de l'art. Cet extrait d'un Facebook Live organisé en avril dernier par le Théâtre de la Colline qu'il dirige pour des élèves qui préparaient le bac avec option théâtre.
L'art, c'est une expression qui est fabriquée par un esprit, l'esprit humain. C'est-à-dire que l'art n'est pas une chose qu'on trouve dans la nature. La nature peut faire des choses absolument magnifiques, mais c'est l'être humain qui la regarde et qu'il la trouve magnifique. Je sais pas, par exemple, quand vous voyez un coucher de soleil absolument magnifique, c'est pas le coucher de soleil qui est absolument magnifique, c'est notre capacité à nous de poser un regard esthétique sur les choses. C'est l'esprit humain qui est renversant, on va dire. Et nous, on crée de l'art, on décide qu'on va faire un objet qui n'existe pas dans la nature et qui va être inutile. Hein. Prenez une sculpture de Giacometti, c'est totalement inutile. Si elle n'avait pas existé, ça n'aurait pas empêché la marche du temps. Mais elle existe, et en existant, elle, étrangement, elle nous transforme. Donc il y a quelque chose de paradoxal dans l'œuvre d'art, c'est que si elle n'avait pas existé, ça n'aurait rien changé. Mais en existant, ça change parfois pas mal de choses. Ça transforme les regards, ça transforme les choses. Je prends un exemple, les premières pièces de théâtre les plus bouleversantes qui ont été écrites, c'est en Grèce, il y a 2500 ans, et la première pièce qui restait jusqu'à nous, c'est une pièce qui s'appelle « Les Perses », écrite par Échille. Échille écrit « Les Perses » alors que les Perses étaient les ennemis des Grecs, et fait en sorte que le public grec est complètement bouleversé par le destin des Perses. C'est-à-dire que Échille, au lieu de faire une pièce pour dire au peuple grec, qui est le spectateur, regardez comment nous avons souffert et regardez comment nous avons été glorieux et héroïques, il raconte l'histoire de l'ennemi et fait en sorte que nous mettions à l'aimer. Les Perses deviennent les héros. Ou si vous voulez, c'est comme si les Israéliens faisaient une pièce de théâtre ou un film où les héros seraient les Iraniens. Et où les méchants seraient les Israéliens, et à la fin de la pièce, tous les Israéliens seront en larmes parce que le personnage iranien est mort. Et il y a cette expression quand on dit, pour raconter une bonne histoire, il faut partir de soi. On va dire, mais vas-y, pars de toi. Mais si on prend l'expression au vrai sens du terme, partir de soi, c'est-à-dire s'en aller de soi. S'en aller de soi, c'est pour aller où? Bah, c'est peut-être pour aller vers celui que l'on comprend le moins, l'ennemi. Et qu'à partir de ce moment-là, quand il y a un fait historique qui arrive, l'art est peut-être le chemin qui nous permet de regarder de l'autre côté, de regarder ce que justement l'histoire nous empêche de regarder.
L'art, c'est le chemin qui permet de regarder de l'autre côté. C'est très beau ce que dit Wajdi Mouawad. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Ouais, je pense que Wajdi, c'est un vrai humaniste, en fait. Il a vraiment une foi dans l'humain. Il a vécu la guerre du Liban, et il connaît l'envers du décor, et sait que l'histoire, que la vie peuvent vraiment être très cruelles et très impitoyables, quoi. Donc il est pas naïf. En même temps, il met beaucoup de choses dans son théâtre, il met beaucoup de choses aussi d'énergie pour parler aux jeunes, pour transmettre. Donc je trouve que plus ça va, plus c'est quelqu'un de précieux, justement, contrairement à la parole politique qui parle pour ne rien dire. Et lui, il parle pour construire, pour échanger, pour agrandir le regard. Donc c'est vraiment une parole artistique qui compte, je trouve. Ouais.
J'ai parlé tout à l'heure des sonorités électro de votre nouvel album. Vous avez travaillé avec votre vieux complice, Nicolas Repac, toujours à la recherche de nouveaux sons, des sons à sampler, à mélanger, à malaxer. Est-ce que ce sont ces nouveaux sons qui donnent une couleur un peu onirique à l'album ?
Les sons, oui, certainement. Ouais. Enfin, après, c'est un disque pandémie, donc il est composé presque tout seul à la maison. Donc c'est peut-être plus le côté ordinateur qui a très très peu d'instruments réels dedans. Il y a vraiment l'ordi, quoi. Donc ça, ça donne un côté, effectivement... Après, la pièce est onirique. D'ailleurs, tout est onirique, en vrai. Tout est proche du rêve.
Mais vous utilisez aussi l'autotune. Donc, on en a beaucoup parlé. On associe souvent l'autotune au rappeur. Donc, c'est un peu plus étonnant de votre part.
Oui, parce que j'aime bien m'amuser. Puis, c'était quand j'ai branché ce logiciel, j'avais envie d'essayer déjà. Parce que j'aime bien le côté un peu robotique de la voix, une voix qui se transforme. Et puis après, je me suis tout de suite beaucoup amusé avec. Et puis, il y avait un petit côté aussi mélopée orientale, mélopée religieuse qui m'a plu. Donc, je trouvais que, voilà, c'était simplement aussi sortir de ses habitudes, s'amuser, ou utiliser un outil très contemporain. Je trouve que ça marche bien avec le morceau de Baudelaire, Recueillement.
Et voilà, justement, oui, ce mariage étonnant, Baudelaire, que vous revisitez, l'associant à l'autotune.
Ouais, dans ce poème, c'est quelqu'un qui est tout seul, qui entend les rumeurs de la ville, comme ça. Et c'était vraiment pour moi très, très proche de ce qu'on a vécu, aussi pendant la pandémie, y compris quand la foule reprend possession de l'espace et qu'on a envie de rester seul, toute cette ambiguïté. Et l'autotune, dans le côté un peu désincarné, un peu solitude urbaine, je trouve que ça, bizarrement, ça collait bien avec le poème de Baudelaire. Normalement, c'est l'opposé, quoi. L'autotune, c'est genre un truc populaire, vulgaire, c'est comme ça que le voient les gens. Et l'autre côté, t'as Baudelaire, c'est le culture, comment dire, chic, sophistiqué, tout ça. Bah, je trouve que les deux ensemble, ça marche bien, quoi.
Donc, c'est une façon aussi de dire vive l'irrévérence?
Bah, c'est tous ces grands auteurs du 19e siècle, il y en a beaucoup qui sont très très modernes, en fait, en vrai, qu'on a rendu classiques, qu'on étudiait à l'école, mais en vrai, c'était des gens qui étaient très très irrévérencieux, tous, hein, sans exception, hein, Balzac, Maupassant, Baudelaire, Rimbaud, on n'en parle même pas, mais même Hugo, je veux dire, c'était tous des anarchistes, hein, des punks, ils ont fait des trucs, ils étaient très très libres, en vrai. Et ils étaient aussi complètement hors normes et rejetés par leur époque. Ça leur a pas empêché de devenir classiques ensuite. Mais si tu reviens à la source de qui ils étaient, c'était des personnages à côté de la plaque, quoi.
Sois sage. Sois sage. Oh, oh, sois sage. Oh, ma douleur. Oh, ma douleur. Et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir. Tu réclamais le soir. Oh, oh, tu réclamais le soir. Il descend. Il descend. La voici. Il descend. Atmosphère obscure enveloppe la ville. L'atmosphère obscure enveloppe la ville. Aux importants la paix, aux autres le souci. Et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir. Tu réclamais le soir. Tu réclamais le soir. Il descend, il descend, il descend, il descend. Le voici.
Recueillement Baudelaire, extrait des Fleurs du Mal, revisité par Arthur H. Arthur, on vous parle souvent de votre père, Jacques Higelin, mais il y a 2 ans, c'est à votre mère Nicole que vous avez rendu un très bel hommage dans un livre, Fugue, disponible maintenant en folio. Fugue au pluriel, celle de votre mère, la nuit de ses 18 ans, la vôtre à 15 ans, et puis l'art de la fugue de Bach, que vous rêvez de savoir jouer au piano. Est-ce que vous pouvez nous lire cette page de votre livre ?
On était au mi-temps de mai, la plus belle saison. Un mois et demi en arrière, ma mère était captive d'une salle d'école triste, où elle s'ennuyait à mourir. Elle observait par la fenêtre le ciel plombé, en attendant que la journée s'achève. Des gens lui imposaient un rythme et un ordre qui n'étaient pas les siens. La vie était morne, l'horizon cadenassé. Pour se rendre au lycée, elle marchait dans des rues sans caractère où tout respirait l'étouffement des ambitions et le malheur silencieux. Elle était une adolescente angoissée parmi d'autres, destinée à devenir secrétaire, dactylo, comme sa mère, ou, dans le meilleur des cas, femme d'employé. Mais ma mère n'avait pas choisi ce destin. Et au lieu de végéter dans un monde sans espoir, elle montait un cheval indocile dans un désert rose. Au lieu de devenir peu à peu invisible dans un monde irréel, elle apparaissait fidèle à elle-même au centre d'un cirque majestueux de montagnes mystiques. Ma mère était devenue un cow-boy. Quand elle avait du temps libre, elle prenait un cheval et partait toute seule dans le maquis, les sens en éveil, en osmose avec l'animal, découvrant de nouvelles pistes au gré de sa fantaisie. Pas d'ordre à recevoir, pas d'échine à courber. Jouissant de cette liberté qui n'était due qu'à la témérité de son désir insolent.
Arthur, est-ce que c'est votre mère qui vous a transmis le goût de la liberté ? C'est un mot qui revient très très souvent dans votre bouche.
Ah oui, sûrement, ouais. Là, c'est vrai que, pour résumer, en fait, elle était une famille ouvrière en banlieue à Argenteuil, en banlieue parisienne. Et puis, voilà, je raconte comment l'idée de s'échapper de ce monde-là vient dans son esprit jusqu'à un moment où ça se concrétise, où il s'enfuit à 5.
La nuit de ses 18 ans.
Et ils prennent le train et le bateau et ils se retrouvent en Corse.
Alors qu'ils rêvaient de Tahiti.
Ouais. Ils étaient tellement naïfs, en fait. Ils voulaient construire un bateau pour aller à Tahiti. je lui dis plusieurs fois, mais vraiment, vous voulez vraiment aller à Tahiti en bateau, quoi? En radeau, je dis ouais, on voulait vraiment y aller. Puis ils ont dit que voilà, c'était peut-être pas raisonnable de le faire de la Seine ou je sais pas quoi, donc fallait aller en Corse. Puis après, évidemment, ils ont oublié cette idée farfelue, mais ils se sont quand même cachés dans le maquis, en pleine nature, sans rien, sans affaires, sans argent, sans nourriture, pendant un mois. Puis après, ils ont trouvé des petits boulots de berger, tout ça. Mais oui, je trouve que c'était une histoire quand même. Vraiment extraordinaire, quoi.
Alors vous avez 15 ans, donc 25 ans après votre mère. Ouais. Vous fuguez à votre tour alors que vous êtes en vacances en Guadeloupe avec votre père, ouais. Sa femme et votre jeune frère Ken. Votre fugue va durer combien de temps ?
Trois mois.
Et est-ce que vous diriez que ça a été un moment de bascule dans votre vie ?
Bah oui, parce qu'il y a un moment dans la vie où on doit faire son premier geste individuel. Dans une forme de solitude, on ne dit pas ce qu'on nous doit de faire, ce qu'on nous dit de faire, pardon, mais on le décide. Et puis là, ça c'était mon cas, c'est moi qui ai décidé, je me suis enfui. C'était dur, mais en même temps, c'était fabuleux.
Donc vous embarquez, vous vous êtes recruté comme mousse,
ouais,
sur un voilier, et puis vous rentrez chez votre mère et vous abandonnez le lycée. Vous ne supportiez plus le carcan du cadre scolaire.
Oui, j'étais très malheureux au lycée. Ouais, j'ai l'impression vraiment de rien apprendre, de passer à côté de la vie. En fait, c'est ça le sentiment que j'avais, qu'il y avait la vie. Puis, je voyais pas l'intérêt de rester assis des heures comme ça. Enfin, après, parfois il y a des profs extraordinaires, et puis c'est quand même rare. Mais il y a aussi beaucoup de profs très ennuyeux. Et puis cette contrainte là, je la trouvais. J'arrivais pas à voir l'utilité, parce que évidemment j'avais pas non plus le désir de devenir médecin ou dentiste ou ingénieur, ou là, dans le cas, les études ont du sens, quoi. Pour moi, par rapport à être vivant, disons, juste vivre, je sais pas encore que je voulais faire de la musique, ça avait pas trop de sens.
Mais alors à 16 ans, vous partez quand même à Boston pour étudier au Berklee College of Music. Qu'avez-vous retiré de cette expérience américaine?
Bah, une grande, le fait de sortir tout d'un coup de son univers connu, sa famille, ses amis, son milieu culturel, social, culturel, d'être comme ça catapulté au milieu de nulle part et que sans même comprendre la langue, en vrai, je comprenais rien quand les gens me parlaient. Ça, c'était vraiment extraordinaire parce que moi, c'était dur. Faut dire la vérité, quand t'es en dehors de toi-même, c'est pas évident, mais du coup, tu construis un regard, quoi. Tu construis, c'était très, très enrichissant, cette période.
Et est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez posé vos mains sur un piano?
Ouais, je m'en souviens très bien. C'était de l'ordre du contact amoureux, en fait. Il y a eu un truc électrique, en fait. J'ai tout de suite arrivé à faire de la musique et à composer quelque chose qui était évidemment très simple, très maladroit, mais qui était quand même de la musique. Une espèce d'évidence, quoi. Je pense que la musique est quelque chose qui vous prend, en fait. C'est comme si ça fait partie des énergies puissantes qui vous emporte, en fait. Il y a pas trop de choix rationnel. Ah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme métier? Je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Non, c'est pas ça du tout, quoi. C'est quelque chose qui vous prend et ensuite qui vous lâche plus, quoi.
Et vous partez toujours de la musique quand vous composez?
Pas toujours, mais dans la plupart. Avant, ça m'arrivait d'écrire des textes ou de faire en même temps texte et musique, mais là, je veux dire que récemment, c'est plutôt la musique, et puis tout d'un coup, il y a un mot qui arrive, et puis derrière le mot, bah, il y a toute une histoire qui se cache.
Et on revient aux histoires que vous aimez raconter. Ouais. Est-ce que vous allez faire un spectacle de ce nouvel album, lui-même inspiré d'un autre spectacle, la pièce de théâtre musical de Wajdi Mouawad?
Pas encore, là. Déjà, c'est un disque un peu expérimental et tout ça, en plus, la période est tellement chaotique, je dirais que évidemment les concerts ont repris, il y en a certains qui se passent très bien, d'autres pas très bien. Du coup, là je vais tourner, mais à partir de l'année prochaine, en fait, dans un an. Voilà, j'espère que les choses seront revenues à la normale à cette époque.
Mais sur scène, ce sera un décor minimaliste, ce sera un écrin. À quoi ça va ressembler le spectacle?
Dans un an.
Dans un an.
J'en ai vraiment pas la moindre idée. C'est des choses qui arrivent au fur et à mesure. Par rapport à la musique, c'est pareil, quelque chose qui est comme un rêve qui apparaît devant nous au fur et à mesure. C'est de quoi sont faites les étoffes des rêves, je ne sais pas.
Arthur H., on va écouter Nancy, un autre extrait de votre nouvel album.
Nancy, si tu savais comme la mer est belle ce soir, quand la lune s'est levée, j'ai cru t'apercevoir sur le sentier. L'étoile filante s'est sauvée hors de tout regard. Les yeux fermés, j'ai brodé les fils d'or de ton corps. La nuit a divulgué tes audaces dissimulées. La nuit a désarmé mes rêves les mieux gardés. Nancy, si tu savais comme la mer est belle ce soir, quand la lune s'est levée, j'ai cru t'apercevoir au loin danser. Nancy, c'est lent. C'est lancinant, Nancy. Nancy, c'est si lent. Si lancinant, Nancy.
Tu as déjà mis ta robe blanche et ton visage resplendit, allongé comme évanoui. J'imagine que tu souris. Comme dit Rimbaud, à peu près, l'éternité, quoi, est retrouvée. Oh, bel Arthur, le supplice est sûr, Nancy s'en est allée. Au loin danser. Si c'est lent, c'est lent, sinon, Nancy, Nancy, c'est si lent, c'est lent, sinon, Nancy.
Arthur H., le clip de Nancy va sortir mardi prochain, donc on ne l'a pas vu encore. Un clip que vous avez tourné cet été avec une jeune danseuse de 78 ans.
Ouais. C'est Caroline Carlson, qui est une femme absolument éblouissante, quoi. Elle a effectivement 78 ans, mais en même temps, faut dire la vérité, elle est vraiment très intemporelle, quoi, parce que des fois, elle fait son âge, des fois, elle fait très jeune, un côté juvénile, et des fois, elle est une espèce de femme sans âge. Elle danse divinement bien, elle a beaucoup dansé dans sa vie, elle est venue, elle est américaine, elle est venue en France au début des années 70. Et puis, elle a jamais cessé toute sa vie de monter des spectacles, de faire des créations, de danser, de former des gens. Elle a beaucoup formé de gens. C'est vraiment une artiste très inspirante. Et puis, je trouve ça aussi merveilleux de voir des gens pour qui non seulement la vieillesse n'est pas un naufrage, mais au contraire, une espèce de floraison, en fait. C'est très beau de voir une femme comme, ou un homme d'ailleurs comme ça. C'est vraiment inspirant en fait. Ça, c'est comme ça trace une voie, une possibilité très belle. Elle a la pêche, hein, elle danse super bien.
Et comment vous l'avez convaincue? Vous la connaissiez personnellement?
Eh ben c'est ma compagne, Léonore Mercier, qui a réalisé le clip, qui avait déjà réalisé La boxeuse amoureuse, les clips du dernier disque, qui est une artiste un peu totale.
Plasticienne sonore.
Qui avait l'idée comme ça de d'avoir une ouais une danseuse sans âge en fait, et puis on a tout de suite pensé à Caroline Carlson et on l'a contactée, on a mis 2-3 jours pour la contacter, elle a tout de suite accepté. C'est le genre de personne qui perd pas trop son temps, qui est très très instinctive en fait. Et d'ailleurs Marianne Gillot, la boxeuse amoureuse,
exactement,
est
qui...
pareil. C'est ils sont tellement habitués à ressentir leur intuition, leur trip et tout ça, à fonctionner comme ça dans la vie, c'est pas du tout des intellectuels. Du coup, si elles sentent qu'un truc est bénéfique et chouette, baf, elle y va direct. Donc c'est très agréable parce que ça met tout de suite une énergie, un mouvement en fait. C'est on sent ça chez elle. Très fort en fait, c'est quelqu'un qui est en mouvement depuis toujours et du coup son mouvement à elle crée une énergie bénéfique à tout le monde autour d'elle.
Merci beaucoup. Merci. Arthur H. d'avoir Merci. Été notre invité. Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge, c'est le titre de ce nouvel album, mini album concept, ouais. Disponible en CD, en vinyle et sur les plateformes. C'est aussi le titre de la pièce de Wajdi Mouawad publiée chez Léméac Actes Sud et qu'on peut retrouver avec l'album dans un très beau coffret. Je vous propose de partir maintenant pour Varsovie au début de samedi, les épreuves finales du concours Chopin. Cette compétition qui se déroule tous les 5 ans est l'une des plus importantes dans le monde pour la musique classique. Cette année, elle se déroule dans un contexte un peu particulier. Outre la crise sanitaire, la politique ultra-conservatrice du gouvernement polonais suscite la controverse. Le reportage à Varsovie d'Antoine Pecker.
La pianiste chinoise Jiana Peng fait partie des 87 candidats sélectionnés pour les épreuves finales du concours Chopin. C'est avec cette mazurka du compositeur polonais qu'elle a remporté les éliminatoires. Dans le centre de Varsovie, l'Institut Chopin occupe un bâtiment de 7 étages. C'est ici que s'organise le prestigieux concours Chopin. Son porte-parole, Alexander Laskowski, revient sur les conditions sanitaires de cette édition.
Presque tous les candidats qui prévus pour les épreuves pouvaient venir ici en Varsovie et on n'avait aucun cas de Covid entre les candidats, les jurys, le public. Ce qui est très intéressant, je pense, c'est qu'on a vendu tous les billets pour le concours Chopin pendant 3 heures. C'est sold out complètement.
Le concours retransmet également toutes les épreuves en ligne. Chopin est une figure incontournable en Pologne, comme nous l'explique Pavel Potoroshin, spécialiste des politiques culturelles.
Chaque gouvernement ou parti politique qui a dirigé ce pays a toujours fait de Chopin une icône de l'identité polonaise. Même les communistes, pendant un demi-siècle, l'ont mis en avant pour sa contribution majeure au monde de la musique. Rien n'a changé.
Mais un sujet fait aujourd'hui débat à Varsovie. Chopin était-il homosexuel ? Des lettres d'amour à des hommes ont récemment été retrouvées. Ces découvertes interviennent alors que le gouvernement ultra-conservateur au pouvoir en Pologne met à l'index la communauté LGBT à l'Institut Chopin, financé par l'État. Alexander Laskowski est un peu gêné.
Comme une institution sérieuse, on ne peut pas vraiment suivre des sensations journalistiques qui ne sont pas vraiment bien recherchées ou basées sur une recherche sérieuse. Est vraiment scientifique.
La culture se retrouve ici au cœur même des divisions politiques, avec d'un côté les institutions financées par le gouvernement nationaliste et conservateur, et celles soutenues par la mairie de Varsovie, libérale et pro-européenne. À l'écart du centre, dans le quartier de Praga, se trouve le complexe du Sinfonia Varsovia, l'un des plus célèbres orchestres polonais financés par la ville. Son directeur, Janusz Marinowski.
Nous sommes bénis de dépendre de la ville et non du ministère de la Culture, qui est aussi celui des Sports. Parce que la situation est vraiment un désastre en Pologne avec notre gouvernement et aussi avec notre ministre de la Culture. Même si l'on postule à une aide du ministère, elle est rejetée. Non pas parce qu'on a de mauvaises idées, mais simplement parce qu'on appartient à la ville.
Dans quelques mois va commencer ici la construction de la nouvelle salle de concert de Varsovie. Si le paysage politique évolue, la prochaine édition du concours Chopin pourrait sans doute s'y dérouler. Mais en attendant, la compétition de cette année entre dans sa phase finale. Et ce qui est sûr, c'est que le lauréat ne sera pas français. Aucun candidat de l'Hexagone n'a passé les éliminatoires, même si la jeune Diana Cooper a livré un beau nocturne au +27.
VMDN touche à sa fin. Merci à Baptiste Antoine à la programmation et à Jérémy Besset à la réalisation. Demain, c'est Jean-François Cadet que vous retrouverez à ce micro en compagnie de Raymond Doumbé, bassiste de Manu Dibango et de Salif Keita. Il sort un nouvel album, Hidden Paradise. À bientôt et portez-vous bien.
Fallait sortir RFI.